BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Vous retrouverez nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, pour leurs coups de cœur et leurs coups de gueule, et puis nos multiples études et coups de cœur pour les livres qui sont dans l'actualité et les études qui viennent d'être publiées. N'oubliez pas tous nos comptes sur les réseaux sociaux, c'est simple, la librairie de l'écho sur à peu près tous les réseaux pour retrouver la référence précise des livres dont on parle dans l'émission. Et tout de suite, place à nos auteurs. Les défis posés par la démographie au menu de cette librairie de l'écho. Nous vivons plus longtemps, nous faisons moins d'enfants. Ces tendances sont-elles inexorables? Comment menacent-elles nos modèles sociaux? Comment bouleverse-t-elle notre rapport au travail? Comment exacerbe-t-elle la guerre des générations? Quelle politique mener pour vivre dans un monde plus vieux, mais pas moins riche et pas plus conflictuel? Réponse avec nos deux invités. Thibaut Prébet, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Thibaut, vous êtes économiste, président de la société de conseil ECAT et vous publiez « Démographie, la bombe tranquille » aux éditions du Rocher. Hippolyte Dalbiz, bonjour. Hippolyte, vous êtes professeur à l'ESSEC Business School, vous êtes vice-président du Cercle des économistes et vous publiez « Économie des âges de la vie », c'est aux éditions Odile Jacob. On commence avec vous. Thibaut Prébet, vous dites attention à ne pas se tromper. La vraie révolution de la démographie, c'est moins la chute de la natalité que l'allongement de la durée de vie et la baisse de la mortalité.
Absolument, Emmanuel, parce que j'ai envie d'écrire là-dessus, parce que à l'approche de la campagne présidentielle qui va démarrer, on va nous assaillir de relance de la fécondité, ouais. Tout simplement pour pas faire d'économie. C'est plus facile de promettre une fécondité qui repart que d'essayer d'équilibrer des systèmes. Or, il se trouve que l'histoire montre qu'il n'y a pas d'évidence à relancer la fécondité. Et j'ai eu envie d'expliquer dans ce livre pourquoi. Alors, le premier point, c'est qu'il y a deux raisons principales de baisse de la fécondité. La première, c'est qu'on vit une phase historique de baisse de la mortalité. C'est-à-dire que au Moyen-Âge, vous prenez du 15e au 18e siècle, la population française bouge quasiment pas. Pourtant, on fait 7-8 enfants par femme. Mais le seuil de renouvellement de la population est à 7 ou 8. Donc en fait, ça ne change rien. Et quand la mortalité, l'arrivée des vaccins, des antibiotiques, fait que la mortalité baisse, en fait, la natalité va s'ajuster, mais avec 20, 30, 35 ans de retard, ce qui va faire qu'on va avoir un boom de population entre les deux. Et donc en réalité, la baisse de la fécondité est plus une conséquence qu'un point de départ. Et puis deuxième point, le progrès technique. Quand vous étiez au Moyen-Âge, 95% de la population mondiale est occupée à l'agriculture. Donc, il vous faut des mains pour vous aider sous la menace de mourir de faim. Et quand le progrès technique se fait, et vous avez le choix, vous allez passer du besoin d'enfant au désir d'enfant. Et quelque part, quand on se pose la question, on a déjà la possibilité d'en faire moins.
Mais c'est ça le cœur du sujet, c'est qu'en fait, la natalité, c'est complètement détaché des contraintes économiques.
Oui, en réalité, assez. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit les gens... Comprenez, c'est à cause du prix du logement, c'est à cause de plein de choses. Mais moi, quand je suis né, la fécondité était plus élevée, il y avait du chômage de masse et c'était un problème. Vous savez, moi, j'aime bien parler du marteau de Maslow. Maslow, donc, on connaît la pyramide, m'a dit cette très jolie phrase. Il a dit, quand on a un marteau, tout problème ressemble à un clou. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que les gens qui sont férus d'immobilier pensent que c'est ça qui freine la fécondité. Ceux qui sont écolos pensent que c'est l'éco-anxiété. On peut penser que c'est le problème de dette. On peut penser que c'est la baisse de la religion. La réalité, c'est qu'en fait, la fécondité baisse aujourd'hui dans 185 pays sur 195. Donc, il y a une tendance de fond. Et qu'est-ce qui l'explique mieux que ça que le progrès technique et la baisse de la mortalité?
Ouais, les démographes vous disent, c'est en gros, c'est la scolarisation, l'éducation, c'est la contraception et c'est l'urbanisation. Alors quand même, une petite parenthèse, j'avais pas du tout vu ça. Il y a deux pays qui échappent quand même à cette tendance. De pays voisins qui sont Israël et l'Égypte.
Voilà, alors il n'y en a pas beaucoup. Alors Israël, c'est la grande anomalie parce qu'aujourd'hui, on se réveille sur le problème de fécondité en France, mais on se rend pas compte que sur les pays développés mondiaux, la France, elle est deuxième ou troisième à la plus forte fécondité. Donc on est quand même un très bon élève, mais le meilleur élève, c'est Israël qui est quasiment au double, puisqu'on est un tout petit peu en dessous de trois enfants par femme, de manière très stable. Et c'est à la fois rassurant et inquiétant. C'est rassurant parce qu'on se dit qu'il est possible d'avoir plus de deux enfants par femme, mais quand on voit le bagage de tous les éléments démographiques que regroupe Israël, on pourra jamais le faire. C'est-à-dire que le conflit territorial a tendance à pousser les gens par nationalisme à faire plus d'enfants, l'ultra-religion qui recule partout également, Et puis, bah, des pouvoirs publics très organisés, que ça soit sur une propagande pronataliste, même d'ailleurs sur des banques de sperme, c'est-à-dire une organisation de la fertilité qui est un très gros sujet aux limites de la fécondité. Beaucoup de sujets. Côté de l'autre côté du spectre, un peu moins fun, effectivement, dans tous les pays africains, on a une baisse de la fécondité qui est plus rapide que chez nous. L'Égypte y échappe un peu, et c'est principalement en ayant quelque part sorti les femmes du marché de l'emploi que du coup elles se retrouvent à faire plus d'enfants, ce qui est quand même pas un modèle qu'on a tellement envie de suivre.
Est-ce que il faut relancer la natalité et est-ce que c'est possible? Ça n'a pas marché jusqu'à maintenant.
Ça marche nulle part. Et d'ailleurs, c'était très intéressant la séquence de ce week-end. C'est-à-dire que Viktor Orban se fait décimer. Tout le monde dit il était pro-russe, il était vilain. La réalité, vous vous souvenez de cette fameuse phrase « It's the economy stupid », j'ai envie de dire « It's the demography stupid ». C'est-à-dire que quand vous mettez 5% de votre PIB pour relancer la fécondité, que ça ne marche pas, que votre croissance s'effondre, que votre déficit augmente, que votre chômage augmente, comme c'est le cas en Hongrie, vous faites sortir. Et de manière amusante, Bardella, en commentant la sortie, a mis en avant la défense de la natalité par la Hongrie. Or, depuis ce plan majeur famille de 2019 de Viktor Orban, la fécondité a baissé en Hongrie. Donc c'est un échec majeur qui a quand même fait des gros dégâts sur l'économie hongroise. Donc moi, je crois vraiment que c'est pas une piste valable. Vous me permettrez ce parallèle un peu choquant. Moi, je considère que la relance démographique, c'est un peu comme la prime à la casse. C'est-à-dire que quand vous dites aux gens, si vous achetez une voiture, vous avez un bonus, ils vont peut-être acheter une voiture un peu plus tôt que ce qu'ils auraient fait. Mais ils vont pas en acheter 8. Et donc, en fait, la relance démographique peut vous créer un petit effet d'aubaine, mais qui, en fait, s'essouffle très rapidement.
Alors, il n'empêche que le déséquilibre est quand même rapide. Vous citez les chiffres. Ça m'avait échappé, là, cette brutalité du renversement des prévisions. Il y a 20 ans, on estimait quand même qu'il y aurait 15 milliards d'habitants sur Terre. Alors, les dernières prévisions, alors certes, les plus prudentes, disent on sera 5-7 milliards.
Oui, il y a une inversion qui est très forte parce qu'en fait, dans toutes les pronostics, mais on a eu le même débat sur le corps, pour l'orientation des retraites, on est toujours trop optimiste sur le rebond de la fécondité. Moi, je dis qu'en fait, on a l'habitude dans les pays développés d'un monde en 2-2-2. 2 de croissance, 2 d'inflation, 2 de fécondité. Et on est en train d'essayer de comprendre qu'on passe dans un monde qui est plutôt en 1-1-1. C'est-à-dire que le potentiel de croissance et d'inflation baisse, tout comme celui de fécondité. Ça nous donne des équations économiques et sociales qu'on n'a pas envie de voir, donc on se prend à rêver que ça revienne. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui.
Alors justement, sur ce changement de paramètres dans les équations économiques et sociales, ce vieillissement démographique, qu'est-ce que ça change sur le marché du travail ?
Alors c'est vrai qu'on pourra en débattre, il y a plein de changements, mais le premier élément c'est que la main-d'œuvre diminue. Donc déjà structurellement, on va vers des pays qui vont avoir moins de chômage, et les premiers pays qui ont traversé ce Rubicon qui était l'Allemagne et le Japon à l'époque sont très vite retrouvés avec un chômage inexistant, et on voit ça un peu partout dans le monde. Donc ça c'est le point positif, et j'essaye dans ce livre de donner une vision plus positive aussi de cette baisse démographique. Ça dit aussi qu'il faut se réinventer, parce que quand vous avez une main-d'œuvre qui s'étiole, relocaliser des industries, c'est probablement illusoire. Par contre, savoir comment on s'occupe des seniors, comment on trouve de la main-d'œuvre pour les métiers qui sont pas délocalisables, c'est un sujet qui est extrêmement important. Et donc, ça va nous pousser à retravailler l'organisation spatiale de la main-d'œuvre avec une nouvelle donne.
Ça veut dire merci. En fait, que l'intelligence artificielle, ça va être une opportunité. Ça veut dire qu'on va être heureux d'accueillir plus d'immigrés. Ça veut dire qu'on va tous travailler plus longtemps.
Alors oui, après chaque pays fera ses choix, mais il est évident aujourd'hui que, et on le voit bien d'ailleurs dans tous les pays qui disent ne pas vouloir d'immigrer, ça a été le cas par exemple en Italie, qu'on se heurte tout de suite à un besoin de main-d'œuvre. Et donc en fait, on a une collision entre ce sentiment que intégrer les immigrés, c'est un défi social et électoral, mais que dans le même temps, on a des pénuries de main-d'œuvre, en particulier sur les métiers les moins bien payés. Et donc je pense que cette révolution démographique qu'on a partout, elle va pousser à revoir les choses, mais il faut pas se mentir. Quand tous les pays au monde ont le même problème, l'immigration étant un jeu à somme nulle, l'immigration va rien régler. Elle va peut-être pour certains pays aider à calmer le jeu. Mais si vous prenez l'exemple de la Chine, qui est un des plus gros problèmes aujourd'hui, avec une population qui va baisser de 10 millions par an et qui perd quasiment 1 million d'habitants par an, qui quitte le pays, pensez qu'avec l'immigration, vous allez solutionner le truc, c'est une illusion.
Alors, on va... On conclura tout à l'heure, parce que je voudrais avoir vos solutions après à tous les deux, puisque Thibault, vous parlez d'une réinvention du contrat transgénérationnel. Mais avant d'arriver aux solutions, Hippolyte Dalbis, il faut quand même qu'on pose un constat et qu'on démonte un certain nombre d'idées reçues. Or, votre livre est une véritable machine à démonter les idées reçues. Et cette machine, c'est quand même un nouveau champ de la science économique que vous et quelques-uns de vos collègues économistes êtes en train d'ouvrir. Ce que vous appelez donc cette économie des âges de la vie. C'est quoi cette nouvelle discipline, on peut dire ?
Mais c'est une autre façon de parler de démographie. En fait, très souvent, on parle de démographie de façon dramatique. Même le mot population, hein, dans son étymologie, il renvoie au désastre. Hein. Et donc, on a toujours tendance à dramatiser ces évolutions. Vous avez cité l'immigration, vous avez cité la baisse de la fécondité. Hein, qui est, la France était un des premiers pays, en fait, à connaître une transition démographique. Hein, et ça a généré beaucoup d'angoisse, hein, beaucoup d'angoisse chez les gouvernants, notamment au 19e siècle, lorsque on commence à être moins nombreux que les Allemands. Et vont naître beaucoup de politiques, et notamment des politiques de soutien à la natalité à ce moment-là. Ce plus étonnant, c'est que la hausse de la longévité, le fait qu'on vive plus longtemps, ouais. qui est absolument, je veux dire, la réussite humaine en fait, ouais. de nos sociétés, c'est important de vivre plus longtemps, parce que ça veut dire qu'on va vivre plus longtemps avec les gens qu'on aime. Et on peut quantifier même cette augmentation. Et bien, on a réussi par une espèce de, je pense, par des cerveaux un petit peu malades, à essayer en présenter comme un problème, ouais. ne dit que c'est le problème du vieillissement, alors même que c'est l'aspiration que tout à chacun souhaite. Je veux dire, vous souhaitez vivre plus longtemps, moi je souhaite vivre plus longtemps, etc. Eh bien, on a réussi. Et pourtant, aujourd'hui, dans la société, se diffuse une espèce de forme d'agisme qui peut être tout à fait décomplexée. Du genre, il y a des gens qui vous disent, il y a trop de vieux. Ouais, il y a trop de vieux en France. Moi, je leur dis, qui est en trop? C'est ton père, c'est ta mère qui est en trop? Vas-y, explique-moi qui est en trop, quoi. Et ça, c'est tout à fait décomplexé, mais aussi, ça vient de façon un petit peu plus sournoise, je dirais, par un pseudo-argumentaire économique qui vous dit que ces vieux sont trop riches, ils ont trop ouais. profité, ils ont sacrifié leurs enfants, etc., etc.
Alors, justement, ce qui est passionnant dans votre travail, c'est qu'en fait, vous essayez d'appréhender les relations économiques entre les générations de façon beaucoup plus multidimensionnel que ce qu'on a l'habitude de faire via les seuls transferts publics, puisque vous dites en fait, il faut regarder ces relations via les intermédiaires que sont non seulement l'État, mais aussi la famille, le marché, et quand on regarde dans toutes ces dimensions, comment ça change la vision? Comment ça enrichit la vision de ce rapport entre les générations, en fait?
Ah, bien sûr, ne percevoir le rapport entre les générations qu'à l'aune du système de retraite, qui, par construction, hein, ouais. en France, est un système où on transfère, en gros, des gens, des personnes d'âge actif vers les retraités, et de considérer que c'est le seul transfert qui soit ou qui mérite d'être discuté dans le débat public, c'est extrêmement réducteur. Lorsqu'on élève nos enfants, lorsqu'on les a à la maison, on les nourrit, on les éduque, on passe du temps avec eux, etc. C'est aussi un transfert entre les générations. D'une certaine manière, l'épargne est aussi un transfert que l'on se fait entre les générations. Et donc, toute l'idée du livre, c'est ne pas s'attacher à un seul transfert qui est potentiellement, qui est un transfert important, hein, mais ne pas s'attacher simplement à ce transfert, mais à regarder l'ensemble. Donc moi, ce que je fais, c'est très simple, hein, c'est pas je m'attache à, c'est ce que je fais concrètement, c'est reprendre les statistiques, vous voyez, sur une cinquantaine d'années, et de tout recompiler, je veux dire, à l'aune des générations, pour voir un petit peu qui reçoit, qui gagne.
Alors allons-y. Hippolyte. D'abord, première idée reçue, les nouvelles générations de retraités ont profité de la vie au point de sacrifier l'avenir des jeunes générations.
Bon, alors, je veux dire, lorsqu'on suit les générations, on regarde ce qu'elles ont pu gagner tout au long de leur vie, et puis on essaie de comptabiliser tout ça, il y a une espèce d'amélioration du niveau de vie qui est considérable, et il n'y a aucune génération qui a un niveau de vie qui est inférieur à la génération précédente.
Toutes les générations vivent mieux que les générations précédentes, et ce, à tous les âges de la vie.
Si on compare une personne qui est née...
Le trentenaire d'aujourd'hui et le trentenaire d'il y a 30 ans ou 40 ans.
Exactement. Ouais. Et bien là, il y a une amélioration, mais qui est même considérable.
Donc c'était pas mieux. Donc l'idée du « c'était mieux avant », tout ça, c'est pas vrai.
Ça c'est toute la rhétorique des clinistes, c'est la nostalgie, hein, et on peut prospérer hein, sur ces idées-là, mais non, c'est pas ce qu'on observe. Mais on l'observe pour le niveau de vie, mais pas seulement. On est aussi en meilleure santé, on a accès à plus d'éducation, on travaille moins aussi, qui peut être considéré comme une avancée sociale, voilà. Mais etc., etc. La situation des femmes aussi s'est améliorée sur le marché du travail, s'est améliorée de façon considérable. Il est bon temps de critiquer les baby-boomers, mais les boomeuses ont engagé une révolution, qui est la révolution de la participation des femmes sur le marché du travail, qui est considérable, qui est historique. Voilà, c'est ces choses-là qu'il faut raconter.
Alors, après, très important.
Après, attention, ça ne veut pas dire que tout va bien.
Ouais, ouais.
Et aujourd'hui, tout ne va pas bien. Et il y a des tas de... Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations précaires et qui sont dans des situations difficiles. Et parmi ces personnes, il y a aussi beaucoup de jeunes, d'accord ? Mais ça ne veut pas dire que c'était mieux avant.
Alors, il y a quand même un point qui m'a étonné, c'est que quand on regarde, par exemple, les dépenses publiques, on voit qu'il y a peu de dépenses d'investissement dans l'avenir. Or, vous dites, finalement, la solidarité socialisée par l'État est de plus en plus souvent tournée vers les jeunes et de moins en moins vers les plus âgés.
Alors, opposer le passé et l'avenir, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Je ne sais plus qui disait, pour mériter l'avenir, il faut respecter le passé. Bien sûr que c'est comme ça que l'on doit fonctionner. Un système de retraite, c'est une solidarité et c'est vrai que c'est un transfert, mais qui est un transfert qui est conditionnel au fait que auparavant les gens ont travaillé. D'accord, ils ne volent pas l'argent. Simplement, ils ont travaillé, ils perçoivent une retraite. D'accord. Donc aujourd'hui, ils sont très nombreux, ça nous coûte très cher. Il faut éventuellement repenser ce système ou pas. Mais dire que on obère l'avenir. En ayant des dépenses de retraite, c'est juste faux. Et puis c'est même contradictoire, parce que vous-même, vous ne pouvez pas vous projeter dans l'avenir si vous dites que vous serez en pauvreté lorsque vous serez vieux. D'accord ? C'est une condition pour être détendu et pour être confiant dans l'avenir que de savoir que l'on sera bien traité lorsqu'on sera plus vieux.
Alors, un des lieux communs qu'on entend, mais je veux dire quasiment tout le temps, c'est de dire ce sont les générations futures qui vont payer le surendettement des générations actuelles. Et en fait, vous dites pas du tout. C'est les générations qui font n'importe quoi qui payent elles-mêmes les conséquences de leur n'importe quoi.
Bien sûr, on s'endette. De toute façon, l'État s'endette à 7 ans, hein, donc en moyenne. Donc déjà, c'est pas non plus à très long terme. Et ce qui s'est passé, la grosse augmentation de dette, on le sait, on le connaît. C'était il y a pas longtemps, c'est pendant la période Covid. Et justement, la décision a été de s'endetter extrêmement à très court terme. Hein. On a émis beaucoup de bons à un an, même si c'était un petit peu étrange. Mais c'est ce qui a été fait pour lisser, d'une certaine manière, les remboursements. Et si on a une très forte remontée des taux aujourd'hui et du coût de la dette, c'est aussi parce que sont arrivés déjà à maturité, avec un besoin de refinancement, de la dette qui a été émise pendant la période Covid.
Quand on regarde votre façon de compiler tout ça, vous dites qu'il y a trois âges de la vie, en fait.
Alors, il y a trois âges de la vie.
En fonction des périodes où, finalement, notre contribution est plus importante que ce qu'on reçoit, etc.
Non, il y a un phénomène anthropologique qui est fondamental, qui traverse toutes les sociétés et toutes les périodes, en fait. C'est qu'au début et à la fin de votre vie, vous dépendez de ceux du milieu, en fait, pour vivre. D'accord ? Parce que vous ne travaillez pas au début et à la fin de la vie. D'accord ? Donc, les sociétés se construisent en mettant en place tout un système assez complexe de transfert, qui vont justement de ce d'âge actif vers à la fois les plus jeunes et vers les plus vieux. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, donc l'État socialise une partie de ses transferts, essentiellement ceux vers les plus âgés, tandis que la famille prend en charge le transfert vers les plus jeunes. D'accord ? Même si l'État, par exemple, par la dépense d'éducation, qui est une dépense qui est relativement importante, intervient aussi dans un transfert vers les plus jeunes. Le marché aussi est une façon de transférer ses revenus, de pouvoir consommer demain en ayant moins consommé aujourd'hui. Donc ce qui est intéressant, c'est de lire la société au travers de ces trois types de transferts, de ces trois institutions que sont le marché, l'État et la famille.
Alors il y a un phénomène que vous mettez en évidence dans votre livre, c'est notre bonheur en forme de U. Et vous dites, il y a en fait une sorte de creux de bonheur au milieu de notre vie, c'est-à-dire qu'on a un moment au milieu de notre vie, donc si l'espérance de vie est à 80 ans, peut-être à 40 ans, où on est moins heureux que pendant les autres périodes de sa vie. Et alors le truc le plus dingue, c'est que vous dites que ça existe aussi chez les chiens.
Alors chez les chimpanzés, hein.
Chez les chimpanzés, pas chez les chiens.
C'est un type de chien un peu particulier.
Pardon.
Ouais, voilà. Donc on est plus de parenté finalement avec le singe.
J'avais compris.
Chien.
J'avais compris les chiens quand vous m'en avez parlé.
Non, les chimpanzés. Mais c'est la courbe en U du bonheur, du bien-être. Hein. C'est la middle age crisis, comme on le dit. On est c'est des âges qui sont pas très loin des nôtres. C'est toujours un moment en fait où on se ressent un petit peu plus mal. On se pose des questions, etc. Il y a une forme de nostalgie, de tristesse qui nous empare. Alors c'est très étonnant parce que c'est justement au moment où on est le plus pivot, c'est-à-dire on contribue le plus, on initie en fait ces transferts vers à la fois les plus jeunes et les plus âgés. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le parallèle que je fais dans mon livre, c'est de dire, en fait, c'est vrai que c'est ça, mais c'est plutôt la fin de cette période. Et en fait, ce moment-là, c'est quand nos enfants s'en vont, ils volent vers d'autres horizons, ils deviennent indépendants, nos parents aussi s'en vont, et finalement, c'est plutôt la fin de ce moment où on est au cœur des liens intergénérationnels qu'on est malheureux.
Alors, un point qui vous oppose tous les deux, c'est l'impact du vieillissement démographique sur la vie démocratique. Thibault, vous dites la gérontocratie, c'est une menace pour la démocratie.
Oui, je pense, parce qu'en réalité, on arrive à une situation où c'est les gens qui ne sont pas actifs qui vont voter pour décider ce que font les actifs, ce qui est quand même quelque chose qu'on n'a pas connu auparavant. C'est-à-dire que le vieillissement est en train d'accélérer, va être de plus en plus important. Et on constate que des systèmes... On le voit au Japon, on le voit en Italie, on le voit aussi évidemment en France, où le système n'est pas financé et demande des réformes, n'arrive absolument pas à se réformer, et dès qu'on commence quelque chose, c'est généralement détricoté juste après. Et donc les esquisses de ce mouvement de vieillissement majeur et de basculement du vote vers les seniors, qui est en plus amplifié par le fait que les plus jeunes ne votent pas, peut-être en se disant qu'ils peuvent déjà plus assez peser, aujourd'hui ne donne pas de preuve du fait qu'il va réussir à s'auto-réguler. Et donc moi je suis inquiet sur le fait que ce système où ceux qui décident sont inactifs et ceux qui sont actifs vont de moins en moins, voire plus du tout décider, soit une forme stable. J'ai beaucoup de mal à penser que l'altruisme sera suffisant pour arriver à quelque chose qui fonctionne.
Vous n'êtes pas d'accord, Hippolyte Delbis?
Alors, l'âge moyen en fait de l'électeur, il est encore actif. Hein, c'est la majorité. Moi, j'ai un petit peu du mal à penser en fait que les plus âgés voteraient de façon catégorielle. C'est pas quelque chose non plus qu'on observe dans les données. Il n'y a pas réellement d'évidence qui nous montre qu'il y a un vote catégoriel de la part des retraités. Ils ont spontanément plus d'intérêt pour les questions de retraite, etc., parce qu'ils les touchent, bien sûr, mais c'est pas ça. C'est pas forcément... Ils gardent des convictions, et ils gardent des convictions pour leur société et pour l'avenir de leur société, et ça, on l'observe très très nettement. Moi, je me rappelle lorsque j'étais lycéen, donc c'était quand même déjà au siècle, voire même au millénaire précédent. Lors des premiers cours d'économie, j'avais un prof comme ça en seconde qui me disait « Oui, mais avec le vieillissement de la population, on ne pourra jamais payer les retraites. » D'accord ? Donc la dramatisation existait, était déjà très forte. Au début des années 80, en fait, les plus de 65 ans, c'est 13% hein, de la population. Aujourd'hui, on est 22%. On a déjà eu une augmentation absolument considérable. Je veux dire, cette bombe du vieillissement, comme on l'appelait à l'époque, elle a déjà été matérialisée. Et la question que moi je pose, c'est je me dis, mais finalement, comment on a survécu? Comment on a fait? Comment est-ce que notre société finalement s'est adaptée pour ce vieillissement qui a déjà eu lieu et qui nous permettent de comprendre en fait quelle doit être la suite, quelles peuvent être les solutions.
La suite justement, Hippolyte, comment fait-on pour, alors ce que vous Thibault appelez réinventer un contrat transgénérationnel, et comment fait-on pour renforcer les liens entre les générations, comment on organise notre avenir, Thibault?
Oui, c'est un sujet intéressant, déjà parce qu'effectivement moi je trouve pas que sur 20 années on a réglé beaucoup de choses, parce qu'on a tout mis dans la hausse du déficit, donc l'idée que ça passe bien, c'est pas un constat que j'ai. Et moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on parle beaucoup des successions à venir qui vont être majeures, puisqu'on va arriver sur des patrimoines très importants qui vont se transmettre. Dans mon livre, je fais un calcul simple de ratio. Je divise l'espérance de vie par l'âge auquel on fait son premier enfant. Et c'est un ratio qui a énormément augmenté au fil des années et qui maintenant recommence légèrement à diminuer. Mais ce qui est intéressant, c'est que on arrive à l'idée qu'il y a eu une période où la personne qui héritait était en âge de créer des projets, d'acheter son logement, et donc on allait avoir une efficacité quelque part de cette transmission qui est, entre, comme vous le disiez très justement, une sorte de contrepartie de la retraite, qui est extrêmement efficace. Et si maintenant on commence à hériter à 50, 60, 70 ans, on a un risque que cet argent en fait soit pas très productif. Et donc il faut réinventer déjà le mode de fonctionnement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut sauter des générations de manière plus facile, comment on peut effectivement réorganiser ces transferts et un mode de retraite qui soit à la fois durable pour ne pas générer... Parce qu'aujourd'hui, ce qui génère cette difficulté, qui à mon avis est effectivement en partie fictive, c'est ce ressentiment, cette impression qu'on paye quelque chose qui reviendra pas. Et donc comment on fait pour que, un, les deux sens fonctionnent, y compris pour redescendre peut-être un peu plus bas dans les âges, et puis comment on trouve un système de retraite qui est viable pour que ceux qui cotisent aient au moins cette assurance qui échappe de plus en plus, peut-être de manière factice, au fait qu'ils y auront droit à leur tour également.
Hippolyte, il y a un économiste financier, Jean-Denis Bachaud, qui signe une tribune dans Les Échos que j'ai trouvé intéressante, où il dit qu'il faut, en fait, il faut pas épargner pour sa retraite, il faut investir dans sa retraite, et il parle de révolution de la décumulation. C'est une nouvelle façon d'envisager la dernière période de sa vie.
Alors, j'ai pas lu cette tribune, donc. Et
puis j'aimais bien le mot de décumulation. Je me disais, tiens, c'est.
Généralement, on disait désaccumulation, et donc j'imagine, voilà, il a fait une contraction. Peut-être qu'il veut dire autre chose. Donc, ce qui se passe, c'est vrai que, finalement, les générations les plus de 60 ans reçoivent de moins en moins, en fait, de transferts nets de la part de l'État. Moi, le chiffre, c'est pas petit. Je veux dire, en 15 ans, c'est à peu près 15 points de PIB par habitant de moins qu'en moyenne, après 60 ans, on reçoit. Donc, finalement, ils ont contribué très fortement à la soutenabilité, en fait, de notre modèle social en recevant moins. Et du coup, en fait, les personnes, ces générations-là, ont accumulé beaucoup plus. Et d'ailleurs, on leur disait, de toute façon, vos retraites vont baisser, vos retraites vont moins augmenter que par le passé. Donc, il faut que vous accumuliez une épargne. Ils l'ont fait. Et puis aujourd'hui, pour maintenir en fait leur niveau de vie face à une moindre présence de l'État, de moindre transfert de la part de l'État, ils réduisent leur épargne. Et alors, ça, on a un phénomène qui était assez marquant, parce qu'on disait beaucoup que il était étrange en fait que les retraités aient tant d'épargne. C'est de moins en moins vrai depuis une dizaine d'années.
Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres, Hippolyte d'Albis, n'importe quoi, je vais y arriver. Économie des âges de la vie. En finir avec la guerre des générations, c'est chez Odile Jacob. Thibaut Prébet, démographie, la bombe tranquille, aux éditions du Rocher, avec une préface de notre ami Jean-Marc Daniel. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette librairie.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons avec notre coup de cœur de la rédaction, nos études, nos chiffres. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr et grand animateur de la rubrique livre dans Alternative Économique, le magazine. Et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, président de la Société d'économie politique et lui aussi critique attitré de cette vénérable institution. On commence avec votre choix, Jean-Marc, le livre de Julien Dubertret et Nicolas Ragache, La longue dérive de la dette française. C'est au PUF.
Oui, alors il faut présenter d'abord les deux auteurs qui sont des spécialistes du sujet, puisque Julien Dubertret a été haut fonctionnaire à la direction du budget. Il a fini d'ailleurs par être directeur de la direction du budget. Et Nicolas Ragache est un administrateur de l'INSEE, comme on disait autrefois, et maintenant il est...
On ne dit plus administrateur de l'INSEE ?
Non, depuis la fin de l'année dernière, on dit ingénieur de la statistique, de l'économie et de la donnée.
Ouf, d'accord, ok.
Oui, c'est très important. L'actualité bouge en permanence.
D'accord, ok.
Des événements fondamentaux se trament.
Et maintenant, il est
économiste dans un think tank patronal. Il est économiste de la FEP.
L'association française des entreprises privées.
Donc le livre retrace effectivement, comme son titre le dit, l'évolution de la dette publique depuis l'avènement de la Ve République, avec au tout début quand même une présentation de la situation en 1958. Donc il rappelle que le général de Gaulle est appelé par la classe politique pour résoudre la crise algérienne. Lui, il veut changer les institutions, mais l'urgence, c'est la situation des finances extérieures et des finances publiques. Et donc, il engage un processus. Et donc, il décrit, à partir du redressement qu'il met en place, notamment sous les conseils de Jacques Rueff, comment, à partir des années, alors, disent-ils, 70, bien sûr, mais surtout 81, on va rentrer dans une logique où la dette va cesser d'être un problème, le déficit budgétaire va cesser d'être stigmatisé par la classe politique, pour devenir au début un moyen de relance, et puis ensuite pour s'installer de façon assez insidieuse. Mais ce qu'ils expliquent, c'est que en fait, il y a d'ailleurs un endroit où ils parlent de paradoxe, les gens qui ont laissé filer la dette et les gens qui ont essayé de la contenir ne sont pas forcément ceux auxquels on pourrait s'attendre. Grosso modo, il y a les dépensiers, donc Pompidou est plutôt un dépensier, il s'oppose à Valéry Giscard d'Estaing, qui est son ministre de l'économie, sur le thème « faire de la dette pour investir, ce serait pas si mal que ça ». Et puis Chirac reprend cette idée, donc Giscard, puis Raymond Barre sont plutôt favorables à l'équilibre, Mitterrand va lancer un plan de relance et ensuite avoir une attitude un peu ambiguë, mais parmi les gens qui sont dans les rigoureux, outre De Gaulle, Giscard, Barre, il y a aussi François Hollande, ils expliquent que François Hollande a finalement bien redresser les finances publiques et notamment cet aspect particulier qui est le déficit structurel. Il rappelle bien que, en fait, accepter un déficit dans une situation de conjoncture dégradée, après tout, c'est pas si mal que ça, mais laisser s'installer un déficit structurel, c'est ça qui est le véritable problème. Alors, deux éléments clés sur ce livre, on a énormément d'informations, il récapitule l'état des finances publiques, il rappelle effectivement comment s'est déformée la dépense publique au travers de l'augmentation de la dépense sociale, et puis il s'intéresse aussi au contexte institutionnel de la dépense publique. Il y a un chapitre sur la rationalisation des choix budgétaires, la RCB des années 70, il y a un chapitre sur la LOLF, comment on est arrivé à la LOLF, il y a un chapitre sur les enjeux européens, ce qu'il y a dans les traités européens. Donc ça aussi, c'est assez original par rapport à ce qu'on trouve dans d'autres livres sur la dette. Cet aspect, il y a aussi une vie institutionnelle autour des finances publiques qui a été assez nourrie, assez riche dans les années en question.
Christian Chavagneux, qu'est-ce que vous retenez de cette longue dérive des finances publiques ?
C'est un livre intéressant, mais pas pour les raisons que Jean-Marc vient d'exposer. Pourquoi ? Parce que quand on fait l'histoire, on s'aperçoit que les auteurs nous disent début 58, par exemple, il a fallu faire appel à des fonds étrangers, donc il y avait une conditionnalité, ils reprennent le mot du directeur du budget de l'époque, la France était sous tutelle étrangère. Elle était sous tutelle étrangère si on a appliqué les conditionnalités, les a-t-on appliquées ? Eh ben, on ne sait pas, on n'a pas la réponse dans le livre, les historiens nous disent plutôt non. La dernière fois que la France a fait un défaut souverain, c'est 1812. Ah ! Tous les historiens disent c'est 1797, la banqueroute des deux tiers. Je dis, ça y est, je vais faire un super papier, le défaut souverain oublié de la France en 1812. Bah, j'ai pas cherché des heures, hein, je vous l'avoue, quelques minutes. Pas trouvé, donc je sais pas d'où sort cette information, il y a aucune référence. L'histoire après, vous savez, on dit toujours la France, la dernière fois qu'elle avait un excédent...
1974.
Non, c'est faux, Emmanuel. Vous vous trompez complètement, c'est un mythe. Parce que entre 75 et 81... Parce que Giscard d'Estaing est au pouvoir, visiblement, c'est un modèle. C'est pas un vrai déficit. À partir de 81, quand c'est la gauche, là, c'est un vrai déficit. Voilà, il y a les vrais déficits de gauche et les faux déficits de droite. Vous avez, à part Mitterrand, n'importe quoi, Michel Rocard, je vous dis pas, Lionel Jospin, il a réussi à améliorer la situation parce que c'est le contexte extérieur. Ce qu'il a fait en demande intérieure, vous n'entendez pas parler. Et François Hollande, c'est bien, simplement, quand il bascule dans le social-libéralisme. Bref, c'est une histoire hyper partiale, complètement partiale, qui finit par lasser à la fin, sauf si vous êtes un libéral convaincu. À ce moment-là, on voit que les deux auteurs, ils ont écrit pour leur camp et que le reste, ils n'en ont rien à faire. À un moment donné, moi, j'étais complètement lassé de... Alors, évidemment, Jean-Marc a oublié de dire une chose, quand même, c'est que notre ancien directeur du budget, c'était un conseiller de François Fillon. Et alors là, la période Fillon... période d'innovation budgétaire est ultra positive. Donc, c'est une histoire complètement partiale qui va intéresser que les gens qui sont... Par contre, le livre est intéressant parce que très rarement, on a comme ça, sur 650 pages, un coup de projecteur de ce que les élites bureaucratiques libérales pensent. Ils pensent quoi ? Que les 3% du site budgétaire européen, mais c'est n'importe quoi. C'est l'équilibre budgétaire qui est simplement... En début des années 50, le déficit budgétaire, c'est 0,5%. Milieu des années 50, c'est 1,9% du déficit budgétaire. Vous savez ce que c'est cette période-là ? C'est une période de dérive des finances publiques. Un déficit budgétaire à 1,9%. Pourquoi est-ce que c'est l'équilibre budgétaire qui est le bien ? Eh ben, on le saura pas dans le livre. En dépit du fait qu'il y a 650 pages. C'est tellement dans la tête des deux auteurs qu'ils prennent même pas le temps de nous expliquer pourquoi c'est l'équilibre budgétaire qui est bien. Et l'équilibre budgétaire, franchement, le débat démocratique sur le budget, ça commence à bien faire. Hein. Donc, une règle d'or des finances publiques qui constitutionnaliserait l'équilibre budgétaire serait super. Et quand De Gaulle arrive, il prend les pleins pouvoirs. Et ben là, il a pas à passer devant le Parlement pour faire son budget. C'était quand même le bon temps. Donc, on retrouve cette chose qu'on connaît historiquement, c'est que les libéraux, c'est des libéraux autoritaires, parce qu'ils taillent dans la dépense publique, c'est taillé dans la dépense sociale. Ils nous le disent tout le long du livre, hein, ce qui coûte cher, c'est la dépense sociale. Et comme personne n'en veut dans le pays, eh ben, il faut un libéralisme autoritaire.
Alors, effectivement, j'ai pas lu le même livre. Hein.
Alors, mouvement de balancier total. J'adore quand vous sortez la sulfateuse, messieurs. Le choix de Christian, c'est le livre de Aurore Laluc, Trump contre l'Europe, aux éditions Les Petits Matins. De quoi s'agit-il?
Et là aussi, comme Jean-Marc, il faut préciser qui est Aurore Laluc. Donc, c'est la présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. Elle nous dit, ras-le-bol de l'Europe qui avance pas, de l'Europe poussive. Il faut avoir un objectif offensif, économique et industriel. Comment? Il faut répondre. Et pourquoi d'abord? Parce qu'il faut répondre à Trump. Et attention, elle nous dit, une fois que Trump va être parti, c'est pas sûr que les Américains soient autant nos alliés sur le plan économique et militaire qu'ils ne l'étaient hier. Et il y a la Chine en embuscade. Donc, de toute façon, il faut qu'on retrouve une indépendance par rapport à la mondialisation. Comment? Alors là, on va avoir toute une série de chapitres, 7-8 chapitres, sur les questions de défense, sur les questions de monnaie, sur les questions de moyens de paiement, sur la culture, sur l'énergie, sur la bataille entre l'euro numérique et puis les cryptos privés américains. Donc, toute une série de petits chapitres, le livre est vraiment petit, qui mettent sur la table l'état des lieux de nos dépendances européennes et qu'est-ce qu'on pourrait faire. En gros, la réponse générale qui est proposée par Aurore Laluc, c'est il faut de la commande publique avec préférence européenne. Comment on finance tout ça? À court terme, le mécanisme européen de stabilité peut emprunter. À moyen long terme, il faut plutôt augmenter les recettes de l'Europe et donc il faut quelque part un saut fédéral. Est-ce qu'on en est proche? Pas du tout, on en est très très loin de son objectif, mais au moins, on arrête les lamentations, on a une politique européenne, une femme politique européenne qui nous propose un chemin offensif pour l'Europe, et moi c'est ce qui m'a plu dans le livre.
Jean-Marc,
un chemin offensif.
Lâchez-vous, Jean-Marc.
C'est quand même une galerie de poncifs assez saisissante, ce livre.
Alors on n'est plus dans le camp des libéraux, là, on est d'accord.
Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que Aurore Laluc, elle est effectivement députée européenne, mais elle a été élue, elle était membre de Génération.S, le parti de Benoît Hamon, et elle a été élue effectivement sur une liste de gauche.
Place publique. Raphaël Glucksmann, c'est pas vraiment l'extrême gauche.
Hein. Oui, elle n'est pas LFI, non. Donc le livre effectivement affirme beaucoup de choses. Christian disait que le livre précédent affirmait beaucoup de choses sans les démontrer. Là c'est pareil, on affirme beaucoup de choses, il n'y a pas de données, il y a des pétitions de principe, il y a un certain nombre de portes ouvertes qui sont enfoncées. La partie la plus intéressante, c'est la partie sur le combat qu'elle mène contre les crypto-monnaies, les stablecoins et tout ça, qui est un combat qu'elle mène par ailleurs, sur lequel effectivement elle est bien informée, et sur lequel elle rappelle un certain nombre de principes qui sont qu'il est bon et utile de rappeler. Quant à ses solutions, eh bien effectivement c'est davantage de protectionnisme, de la commande publique financée par de la dette, c'est-à-dire des choses qui manquent un peu d'originalité et dont le moins qu'on puisse dire qu'elles ont été jusqu'à présent écartées pour des raisons qui me paraissent assez évidentes, c'est-à-dire que ce dont on manque en Europe, c'est pas de dette publique, ce dont on manque en Europe, c'est pas de dépenses publiques, mais il n'est jamais un moment parlé venu sur où on en est sur le vieillissement de la population, où on en est sur les possibilités de l'Europe de effectivement se projeté au travers de son épargne, puisque où on en est par rapport au rapport Draghi, où on en est par rapport au rapport l'État. Tout un tas d'éléments qui sont des éléments qui sont dans le débat sont totalement écartés de ce raisonnement. C'est un livre qui est assez agréable à lire. Je reconnais qu'il y a un talent littéraire, il y a une capacité d'écriture qui est assez rare chez des économistes, donc elle écrit bien. Mais elle écrit du vent, mais bien.
Bon, voilà. Bah écoutez, messieurs, deux livres qui affirme beaucoup, si je vous reprends les uns et les autres, deux livres qui pour le coup ont suscité des avis extrêmement tranchés, mais c'est comme ça qu'on vous aime aussi. Allez, c'est l'heure de retrouver notre étude de la semaine.
BFM Business, la librairie de l'écho, l'étude de la semaine.
C'est celle d'Allianz Trade qui publie sa 5e édition de son Global Survey, une étude qui interroge les exportateurs du monde entier sur leurs perspectives pour l'année qui arrive. Plus de 6000 exportateurs interrogés dans 13 pays, dont la France. Et je le précise parce que c'est important, étude qui a été conduite avant et après le début de la guerre au Moyen-Orient. Pour nous en parler, Maxime Darmet. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Maxime, vous êtes économiste France, États-Unis, Royaume-Uni de Allianz Trade. Ce qui saute aux yeux, Maxime, quand on regarde cette étude, c'est qu'on se dit finalement, on a quand même plus de 7 entreprises sur 10, malgré le conflit au Moyen-Orient, qui s'attendent à une augmentation de leurs exportations en 2026.
donc des entreprises plutôt résilientes.
Alors oui, effectivement, c'est un résultat qui peut surprendre, mais je pense qu'il y a deux explications rationnelles qu'on voit. La première, c'est que les entreprises exportatrices anticipent que le conflit, la durée du conflit sera finalement assez courte, avec des répercussions économiques finalement assez contenues. Et c'est plutôt effectivement ce qui semblerait se dégager si les négociations de paix continuent à progresser et surtout si le détroit d'Ormuz se réouvre. Donc ça, c'est la première explication. Et la deuxième explication aussi que j'y vois, c'est que finalement, les entreprises exportatrices, en tout cas, finalement, elles se sont habituées de plus en plus au choc. Donc, elles font preuve de plus en plus de résilience dans leurs opérations. Donc, finalement, elles se disent qu'elles pourront, elles voient encore des opportunités à l'export, effectivement, pour les 6 à 12 prochains mois.
Alors, elles s'attendent quand même à un durcissement des conditions de financement du commerce extérieur. Notamment, elles redoutent quand même une augmentation des difficultés de paiement de leurs clients.
Alors oui, ça c'est aussi une tendance qui se confirme face aux différents chocs qui se succèdent dans l'économie mondiale, choc de taux d'intérêt, choc d'inflation, choc d'approvisionnement. C'est corroboré dans les enquêtes qui nous disent effectivement les niveaux de défaillance d'entreprises sont très élevés, donc les risques de non-paiement s'allongent très fortement, notamment les non-paiements au-delà de 40 jours. Donc on est vraiment sur des durées très importantes pour lesquels beaucoup de fournisseurs, beaucoup de clients, ne réalisent pas le paiement à l'heure et au jour indiqué.
Quelle stratégie d'adaptation, quelle stratégie de réorientation face à la crise et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement les entreprises mettent-elles en place? Vous avez commencé à le dire, elles sont quand même extrêmement réactives finalement, elles ont appris à être agiles.
Ah, pour moi, c'est peut-être le principal point de l'étude, c'est-à-dire depuis 5 ans qu'on mène cette enquête, on voit une montée en puissance au cours des dernières années des stratégies, justement, comme vous le disiez, d'adaptation face à ces chocs. Alors, elles sont au nombre de 3 ou 4. Pour vous les résumer, la première, c'est de chercher des nouveaux fournisseurs, ou diversifier ses fournisseurs. La deuxième, c'est d'utiliser des nouveaux itinéraires pour exporter, pour importer. Donc, on passe par différentes zones, différents marchés. Donc, ça devient un peu plus complexe. Une troisième aussi stratégie qui est souvent citée par les entreprises dans l'enquête, c'est une hausse finalement des stocks. Donc, des niveaux de stocks pour faire face justement aux pénuries qui sont de plus en plus fréquentes depuis la période Covid, pandémie.
Ouais, on voit bien qu'effectivement... Il y a eu une prise de conscience de la fragilité des chaînes d'approvisionnement mondiales et que finalement il y a eu cette volonté de les renforcer. Est-ce que ça a un coût?
Alors ça, on n'a pas demandé dans l'étude exactement qu'est-ce que ça signifie en termes de coût, mais effectivement, ne serait-ce le simple fait de changer, de modifier vos chaînes de valeur et aussi d'augmenter votre niveau de stock, effectivement, ça pèse sur votre trésorerie. Donc, on peut effectivement penser que les niveaux de trésorerie sont un peu plus fins dans le monde d'aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a encore quelques années. Il y a aussi un dernier point dans l'étude aussi qu'on n'a pas encore évoqué rapidement, c'est aussi les intentions de reshoring ou de relocalisation.
Ouais.
Donc, c'est un terme un peu à la mode, mais qui effectivement se confirme dans l'étude au cours des années. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui disent finalement qu'elles voudraient sortir de la Chine, ou en tout cas adopter des stratégies Chine plus 1. Donc on garde peut-être la Chine, mais on va aussi établir nos chaînes de valeur, nos productions manufacturières dans d'autres zones, avec, ce qui n'est pas étonnant, mais il faut quand même le dire, c'est l'Asie du Sud-Est et l'Inde qui sont les destinations de choix privilégiées par les entreprises dans l'étude. Donc c'est vraiment ces zones géographiques qu'elles visent. Dernier point aussi que je trouve intéressant, s'il me reste 30 secondes.
Merci Maxime.
C'est sur les traités de libre-échange, Mercosur notamment avec et Inde, qui ont été signés avec l'Union européenne. 93% des entreprises interrogées pensent que c'est une très bonne opportunité et qu'elles comptent exploiter ces nouveaux marchés pour accroître leur exportation et leur chiffre d'affaires.
Merci beaucoup Maxime Darmet, économiste France-États-Unis chez Allianz Trade, de nous avoir synthétisé donc cette 5e édition du Global Survey. Allez, c'est l'heure de vous livrer toujours plus de statistiques et de chiffres.
BFM Business, la librairie de l'écho, des idées et des chiffres.
Trois études cette semaine qui nous dessinent un panorama précis et un peu inquiétant de la situation financière des entreprises françaises. L'étude Altares d'abord sur les défaillances d'entreprises. Presque 19 000 procédures collectives ouvertes depuis le début de l'année à l'issue du premier trimestre 2026. Sur 12 mois, ça fait 71 000 défaillances. C'est 6% de plus sur un an. Deuxième étude, celle de l'Association française des trésoriers d'entreprise et de Rexecode, qui nous dit que les délais de paiement s'allongent. En avril, seuls 2% des trésoriers observent un raccourcissement des délais de paiement, contre 22% qui constatent un allongement. Et puis, cette étude, Agicap, là encore, sur les délais de paiement 2025, et qui amplifie finalement les tendances déjà décrites. Les directions financières françaises subissent une augmentation du délai moyen de paiement à 65 jours en moyenne pour 2025, hausse qui fragilise les entreprises parce qu'elle augmente effectivement et évidemment les besoins de trésorerie.
BFM Business, la librairie de l'écho, le coup de cœur de la rédaction.
Et c'est celui de notre éditorialiste internationale, Annalisa Capellini. Annalisa, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Annalisa, vous êtes spécialiste de la géopolitique, vous êtes spécialiste de la guerre, et donc tout naturellement, vous avez choisi de nous plonger dans la vie des soldats. Ce livre s'appelle « Soldats, une plongée au cœur de la vie militaire », publié chez Erol, un ouvrage collectif, Nicolas Mainvieille, Marie Roussy, Roman Thomas et Roxane Montfort. Et donc, voilà, vous nous plongez dans le quotidien des armées.
Oui, parce qu'on parle énormément de guerre en ce moment sur tous les plateaux. Et d'ailleurs, on nous invite à se préparer, à être prêts à un affrontement futur. On nous invite à se préparer à perdre nos enfants. Hein. Vous vous rappelez de la polémique d'il y a quelques mois. Et c'est sûr qu'on se prépare à un affrontement qui est nouveau, parce que la guerre a changé. C'est une guerre d'information, c'est une guerre cyber, c'est une guerre d'intelligence artificielle, de puissance de calcul même. Et en même temps, bah, la guerre est restée la même sur le terrain aussi, ce qui amène en fait une série de questions très très concrètes. Donc concrètement, comment on prend les bonnes décisions une fois qu'on est vraiment sur le terrain et que donc la réalité n'est pas tout à fait la même que celle qu'on avait imaginée. Comment on nourrit les troupes? Comment on les habille? Comment on les fait dormir sur une opération qui dure plusieurs jours et qu'on n'a pas vraiment le temps de dormir?
Toutes les questions d'intendance en fait. Hein, qui.
Exactement, c'est très concret, mais c'est là qu'on se rend compte que le vrai point faible d'une armée, c'est la logistique. Hein. Finalement, on peut faire tous les plans stratégiques du monde.
Parce qu'en fait, l'intendance, contrairement à ce qu'on dit, ne suit pas. L'intendance, elle précède.
Non, exactement.
S'il n'y a pas l'intendance, il n'y a pas de victoire.
Exactement. On peut faire tous les plans sur la comète qu'on veut, mais à la fin, c'est le terrain qui décide. Et d'ailleurs, le livre, qui est plein d'anecdotes très intéressantes, nous raconte que pour la guerre du Koweït en 91, on a dû acheminer 2,5 millions de soldats. Vous savez combien de tonnes de matériel ça représente?
Oh, je ne sais pas combien de...
Ça se compte en millions, hein.
Ah oui, c'est quoi? C'est une tonne par soldat, deux tonnes par soldat?
C'est 7 millions
ah
de
oui,
tonnes.
D'accord.
Donc il y avait du matériel, de la nourriture, du carburant, donc vous imaginez...
Ouais, donc c'est plus de 3 tonnes par soldat.
Ouais. Oui, exactement, c'est 7 millions de tonnes de matériel, ça représente 700 tours Eiffel, on aime bien faire les comparaisons avec les tours Eiffel. Donc voilà, vous voyez que c'est une immense faiblesse, surtout qu'évidemment, la partie adverse fait tout pour perturber les livraisons et la logistique sur le terrain, bien sûr.
Alors, on avait déjà évoqué dans la librairie ici, Christian et Jean-Marc avaient évoqué le livre justement sur l'approvisionnement en pétrole de l'Africa Corps, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et vous dites, il y a un enjeu qui est quand même peut-être encore plus stratégique, c'est la nourriture.
Bien sûr, c'est au cœur du sujet parce que non seulement parce que c'est, vous le savez, sur le champ de bataille sont nés certains plats mythiques comme le poulet marengo inventé par le cuisinier de Napoléon, mais surtout parce que la cuisine et la nourriture sur le champ de bataille, c'est pas uniquement une question calorique. Donc comment on nourrit les armées pour qu'ils soient suffisamment en forme pour ensuite pouvoir mener les opérations dont on a besoin, mais c'est surtout très symbolique. Donc il faut évidemment trouver un équilibre entre des repas qui soient nourrissants, qui soient faciles à transporter, à organiser.
Question de morale aussi.
Et en même temps, qu'ils soient reconfortants. Bah d'ailleurs, si vous lisez le livre, vous allez découvrir pourquoi, dans les sous-marins, on mange généralement mieux qu'ailleurs. Je ne vous spoile pas.
Non, passionnant. Alors, un autre besoin
très difficile à satisfaire sur les terrains d'opération, Annalisa, c'est quand même le sommeil.
Bien sûr, le sommeil qui est une des armes de la guerre. Hein. Le mécanisme de la guerre se borne à deux choses, se battre et dormir. C'est un adage qui nous dit ça. Et vous le savez vous aussi, parce que je crois que vous vous réveillez très tôt, hein, tous les matins, au milieu de la nuit.
3h30,
bah voilà.
Garde à vous.
C'est ça. Bah, les soldats, eux aussi, ils ont des nuits très courtes, morcelées, parfois inexistantes. Donc pour eux aussi, le sommeil, c'est un peu une variable d'ajustement. Sauf que eux, ils vont après se battre sur le champ de bataille avec des missions où ils sont privés de sommeil pendant 4 jours entiers, ou parfois du sommeil fractionné pendant des semaines entières. On sait à quel point ça peut ressembler à de la torture. Donc ils ont inventé le sommeil polyphasique avec des mini-siestes, des siestes tactiques, ils les appellent, entre 15 minutes, donc c'est très très court, et 90 minutes, donc c'est un tout petit peu plus long. Et surtout, il faut dormir partout, à côté des collègues, dans un véhicule blindé, dans une tente montée à la va-vite, au milieu du bruit, au milieu du chaos, dans un sous-marin où vous n'avez pas du tout de lumière naturelle, donc tous vos repères physiologiques, on va dire, sont complètement brouillés. Donc, ils ont inventé par ailleurs une méthode militaire du sommeil que vous allez peut-être appliquer pour vos siestes. Une méthode qui a été inventée par les Américains et puis mise au point pendant la Seconde Guerre mondiale, qui consiste à détendre chaque partie du corps avec la respiration. C'est assez bien expliqué dans le livre. Donc c'est crucial quand on a peu de temps pour s'endormir. Vous voyez tout ça, ça nous paraît anecdotique, ouais, très concret, mais la réalité, c'est que après, quand on va se battre sur le terrain pour protéger un pays, pour défendre, que ça soit en Iran, que ça soit en Ukraine, que ça soit pour protéger le Groenland par exemple, dont on a tant parlé ces derniers mois. Ça, c'est la réalité des troupes sur le terrain, et c'est la réalité à laquelle on doit peut-être se préparer en France, en Europe, pour les prochains mois.
J'aime cette citation, quand tu as 5 minutes, mange, quand tu en as 10, dors.
Oui, c'est dans le livre, c'est un militaire, puisque les auteurs ont interviewé énormément de militaires sur le terrain.
C'est passionnant, cette plongée au cœur de la vie quotidienne de nos armées. Merci beaucoup, Annalisa Capellini, et puis ben, on a hâte de vous retrouver dans la librairie de l'Écho. Je sais qu'on a déjà choisi votre prochain livre, je n'en dis pas plus. Merci, allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'Écho, les livres de la dernière minute.
Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui?
J'ai choisi une étude totalement fascinante. Et même si je vous dis qu'on prend les 5 plus grandes revues scientifiques au monde, quelle est la part d'articles publiés par les chercheurs chinois?
Je ne sais pas si on se fie au dépôt de brevets, je dirais, entre 25 et 30%.
C'est 34%. Et la part des Américains, 24%. Ah, une étude qui montre en un peu plus de 2 décennies une montée fulgurante de la progression scientifique chinoise. Attention, ça ne veut pas dire que les Chinois dominent la science mondiale. Faut les regarder d'un peu plus près. Mais vraiment, cette étude est tout à fait fascinante. On s'aperçoit que la Chine est en train de prendre un ascendant sur les États-Unis en matière scientifique.
Oui, mais ça veut dire que si vous cumulez les deux, vous êtes à quoi? Vous êtes à peu près à 55%, donc ça laisse beaucoup de place aux Européens aussi.
Ouais, il y a les Européens, il y a d'autres pays émergents. L'Inde est en train de beaucoup progresser aussi. Ça nous fait un état des lieux mondial de où sont les nouvelles idées dans les 5 plus grandes revues. C'est assez fascinant.
C'est des revues de physique, de médecine.
Exact,
de...
tout.
Ah bah c'est
toutes sciences confondues.
Ah oui.
Jean-Marc Daniel.
Alors moi j'ai choisi une revue. Alors qui est une revue scientifique aussi, mais pas au sens de la physique ou c'est pas une revue d'ingénieurs. C'est la revue Politique étrangère, qui est la revue de l'IFRI, qui est une revue connue. Et donc son numéro de printemps est consacré en particulier à l'économie internationale. Et il y a un article que j'ai trouvé particulièrement intéressant de Jean-Michel Severino sur l'aide publique au développement, parce que cette aide publique au développement a été beaucoup critiquée récemment, elle a été remise en cause et tout. Et donc il fait un état des lieux et il montre l'utilité de maintenir et la nécessité de maintenir un flux financier au travers de cette aide publique. C'est à la fois un article intelligent, bien écrit, et je pense qu'il faudra méditer ce que raconte notre ami Jean-Michel Severino.
Mais Jean-Michel Severino, ancien vice-président de la Banque mondiale.
Absolument.
Grand spécialiste du développement.
Et ancien dirigeant de l'Agence française de
développement. De l'Agence française de développement. Exactement. Allez, moi je termine avec un hommage à l'armateur Philippe Louis Dreyfus. Il avait publié ce livre en 2025. J'aurais aimé l'inviter pour qu'il nous parle effectivement de sa vision de ce qu'est le transport de marchandises. 90%, hein, rappelons-le, du trafic de marchandises est acheminé via les navires. Et il a une vision, il développait une vision, je dis ça parce qu'il est décédé l'année dernière, il développait une vision sur ce que pouvait être un transport maritime durable justement, et il disait 10%
de réduction de la vitesse, c'est 30% d'émissions de CO2 en moins. Et donc voilà, j'avais pas pu l'inviter. Et donc c'était au moment où justement on jette ces coups de projecteur sur le transport maritime. Voilà, quelqu'un qui nous en parle de façon absolument passionnante. 90% gagner la guerre des océans, c'est aux éditions Débat Public. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture.